Dieu dans Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8. Ces deux versets vont nous suivre tout au long du message. Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8. Il est dit ceci: béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien, il ne cesse pas de porter du fruit. Ce passage montre un arbre qui est là, et quel que soit ce qui pourrait arriver autour de lui, il reste vert. Pourquoi ? Parce qu'il va plonger ses racines vers de l'eau, il va être enraciné bien profondément, et il va pouvoir continuer à porter du fruit malgré la sécheresse. Et ce passage est une métaphore de la vie chrétienne, où nous sommes comme cet arbre, où nous devons être comme cet arbre, capable où notre force, notre vitalité, notre fécondité va dépendre de notre profondeur, de notre enracinement en Christ. Cet arbre, on l'a vu au verset 8, il y a les trois points du message dans le verset 8. Il va premièrement puiser des ressources. Il nous est dit, il va étendre ses racines vers le cours d'eau. Deuxièmement, il va faire face aux épreuves. Il nous est dit, il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur. Son feuillage reste vert et lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien. Il est capable également de porter du fruit parce qu'il nous dit, il ne cesse de porter du fruit. Le thème de mon partage ce matin, c'est « Va en profondeur ». Va en profondeur pour puiser des ressources. Va en profondeur pour faire face aux épreuves. Va en profondeur pour porter du fruit. On l'a lu au verset 8. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau qui étend ses racines vers le cours d'eau. À un moment donné, Jésus, dans les évangiles, il va appeler des disciples. Et il nous est dit dans Luc, chapitre 5, verset 4, qu'il va enseigner une foule immense et qu'après avoir enseigné cette foule, il va demander à des hommes de jeter leur filet. Mais avant de jeter leur filet, alors qu'ils reviennent sans avoir rien pris de la nuit, il va leur dire, mais avance en pleine eau. Va là où les eaux sont profondes. Allez là, où vous n'êtes pas encore allé. Pourtant, Pierre, qui est cet homme, ce pêcheur expérimenté, avec ses compagnons, sont des professionnels de la pêche. Ils savent où ils doivent aller pêcher. Mais ils vont faire confiance à la parole de Dieu. Ils vont accepter l'invitation de Jésus à aller dans les eaux profondes, à aller là où il les appelle, pour puiser les ressources qu'ils n'ont pas puisées jusqu'à présent durant toute cette nuit. Ils vont aller plus loin. Nous devons accepter également cette invitation. Et je suis conscient que le message de ce matin, ce n'est pas forcément un message où on se réjouit pleinement de ce que Dieu fait. Parce que c'est un message de consécration. C'est un message où nous sommes appelés à aller en profondeur avec lui. Premièrement, dans la prière. Aller en profondeur dans la prière. Les arbres, et tout au long du message, je vais illustrer grâce aux arbres, aux racines dont il est question dans Jérémie 17:8, les racines qui vont puiser, qui vont s'étendre jusqu'auprès de l'eau. Les racines, ce n'est pas quelque chose de visible. Les racines sont cachées majoritairement. Là, on a de la verdure autour de l'église. On ne voit pas forcément les racines. Mais pourtant, elles sont essentielles. Les racines sont essentielles pour aller puiser tout ce dont il a besoin. Elles sont cachées sous terre. Elles ne sont pas visibles. Ce n'est pas, Notre vie de prière est identique à des racines qui sont invisibles. Oui, le dimanche matin, nous pouvons louer Dieu à haute voix et merci Seigneur, parce que la prière communautaire est importante. Elle encourage, elle fortifie les autres. Mais si notre vie de prière se contente uniquement de ce qui se passe le dimanche matin, on passe à côté de ce que Dieu prévoit pour notre vie. Jésus va dire dans Matthieu 6:6, « Mais lorsque tu pries, entre dans ta chambre, va là dans le lieu secret, et ton Père qui est là, qui voit ça, te le rendra. » Nous devons cultiver une vie de prière, non pas qui est visible, non pas que nous pouvons tous entendre, mais cultiver une vie de prière profonde dans l'intimité de la présence de Dieu. Rappelez-vous la parabole du publicain et du collecteur d'impôts. Un pharisien qui est là et qui fait de belles prières ouvertement, que tout le monde entend. Et pourtant, cet homme ne va pas être justifié. C'est ce collecteur d'impôts qui prie dans son cœur et qui va exprimer son désir profond à l'intérieur de lui. Lui va être justifié. Imaginez qu'on entend dire que la prière, et c'est à juste titre, c'est la respiration de notre esprit, la respiration de notre âme. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de prendre une bonne dose d'air le dimanche matin et d'attendre dimanche qui suit pour pouvoir respirer à nouveau? Ça serait insensé, ça serait même mortel. Mais la vie de prière, c'est ainsi. La vie de prière, c'est ce qui peut nous permettre de respirer. Ce n'est pas quelque chose de visible comme des racines, mais parce que c'est caché, parce que ça se fait dans le plus grand des secrets, dans l'intimité de la présence de Dieu. Nous respirons avec Dieu, ensemble, pour pouvoir vivre. Des racines qui sont peu attrayantes. Lorsque ça vous arrive sûrement d'enlever une plante pour la rempoter, et on voit les racines, ce n'est pas quelque chose de très joli, elles sont noueuses, tout ça. Et des fois, la vie de prière apparaît comme quelque chose qui ne donne pas envie au premier abord. Parce que notre chair, elle aime des choses qui lui plaisent, mais notre chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et lorsque on parle de la vie de prière, oui, vous entendez sûrement de nombreux messages pour dire la vie de prière c'est important, la vie de prière c'est essentiel, mais la vie de prière, notre chair, elle n'aime pas ça. Notre chair, c'est tout ce qui a des désirs contraires à ceux de Dieu. Mais quand on dit, d'ailleurs les disciples, on en fait l'expérience, quand Jésus dans le jardin de Gethsémané, mais n'avez-vous pas pu prier ou veiller une heure avec moi? Lorsqu'on dit à notre chair, allez, on va prier pendant une heure, ça ne donne pas envie. Là, c'est quelque chose qui n'est pas agréable, humainement parlant. Alors que notre esprit, lui, a des désirs, désire cette vie de prière qui, en apparence, ne semble pas attrayante. Mais pourtant, lorsqu'il y a des moments de lutte, de découragement, on a l'impression parfois même de prier dans le vide. On a l'impression que nos prières ne dépassent pas le plafond. On dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais ce sont justement ces moments-là où on lutte parfois dans la prière. Que notre foi grandit, que notre foi est fortifiée, que notre foi arrive à maturité. Nous devons persévérer dans la prière. Paul dira, mais priez sans cesse. Non pas que nous devons être des moines à être exclus de la société et à prier 24 heures sur 24, mais toujours être dans cette attitude de prière. Des racines qui bien souvent sont beaucoup plus volumineuses en profondeur que ce qu'on voit à l'extérieur. Le volume de l'arbre est plus important sous terre que ce qu'on voit physiquement au-dessus de la terre. Notre vie de prière devrait ressembler à cela. Ou lorsqu'on voit quelqu'un, lorsqu'on voit un chrétien, ce que l'on voit devrait nous montrer son intimité, sa profondeur avec Dieu. Au travers du caractère qu'il renvoie, au travers du service qu'il renvoie, on est censé voir, non pas une apparence de piété, mais on est censé voir la profondeur de sa vie spirituelle. Jésus passait du temps dans la prière. Il a passé toute une nuit à prier pour choisir ses disciples. Lorsque sa renommée grandissait, des foules entières venaient à lui. Il lui est arrivé de se retirer. Alors que des personnes désiraient la prière, qu'il impose les mains, que les malades soient guéris, lui, il n'hésitait pas à se retirer dans le lieu de prière. Jésus était un homme de prière. Il a enseigné ses disciples sur la prière. Il priait en tout temps. La prière n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est l'oxygène de nos vies. En profondeur dans la prière, mais aussi en profondeur dans la parole, pour puiser des ressources. Les racines vont absorber l'eau et les nutriments sous terre, tout ce qu'elles vont trouver comme nourriture. Mais nous avons une nourriture spirituelle que nous ne devons pas négliger. Jésus va dire lorsque il va être tenté par le diable, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il va citer l'Ancien Testament. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle. La parole de Dieu est vitale. Et de la même manière qu'il paraît insensé de retenir sa respiration pendant une semaine, il paraît insensé, sauf si c'est conduit de Dieu, de s'abstenir de nourriture pendant une semaine. Où on prend le repas, et puis c'est bon, j'ai suffisamment de nourriture pour toute une semaine. Et c'est parfois ce que certains chrétiens font. On vient à l'église le dimanche matin, on se nourrit, et puis on survit pendant une semaine. Et on attend le prochain repas, le dimanche qui suit. Mais la nourriture spirituelle ne dépend pas de ce qu'un pasteur dit, la nourriture spirituelle dépend de votre vie avec Dieu, de votre intimité avec Dieu, de ce que vous vous nourrissez vous-même de la parole de Dieu. Nous devons mettre en place des choses dans nos vies qui nous permettent de dégager du temps, de faire des plans de lecture, je ne sais pas, mais il y a toutes sortes de choses que nous pouvons faire pour lire. Ah, mais des fois, je ne comprends pas, des fois, je n'ai pas envie. Oui, je n'ai jamais dit que c'était facile. Mais c'est notre nourriture. C'est notre nourriture. Des racines qui sont là pour stabiliser l'arbre. Sans racines, on a déjà vu des arbres qui avaient très peu de racines et à la moindre tempête, ils tombaient. Alors, on a vu également des arbres complètement penchés sous le coup du vent qui tape constamment, notamment ici, il y a le mistral qui souffle et des racines, des arbres qui parfois sont penchés et qui poussent penchés. Mais ils restent là, mais parce qu'il y a des racines qui sont là pour stabiliser l'arbre et ils ne fléchissent pas. La parole de Dieu nous donne une base solide. La parole de Dieu nous donne une stabilité spirituelle et émotionnelle pour rester ferme, inébranlable, contre les épreuves, contre les fausses doctrines. Dans Éphésiens chapitre 4, Paul va dire ceci, que nous devons tous parvenir à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits-enfants. Ballotté et emporté par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, à des épreuves, à des tentations, la connaissance que nous avons de la parole de Dieu, comme Jésus lorsqu'il a été tenté dans le désert, il va répondre, il est écrit. Il va être stable, il va pouvoir résister. Non pas Dieu m'a dit, mais il est écrit. Il est écrit. La parole de Dieu est essentielle pour notre stabilité. Prenons l'exemple de la plus grande tour du monde, Burj Khalifa, dans les Émirats arabes. Une tour immense, je crois qu'elle fait près de 800 mètres de haut. Elle est immense. Mais elle a pu atteindre cette hauteur uniquement parce qu'elle avait des fondations en profondeur, qui s'étendent jusqu'à 75 mètres de profondeur. Un immeuble de 12-13 étages de profondeur. Elle est bien fondée dans le sol. La croissance spirituelle qui est un processus, comme une plante, comme un arbre qui pousse. un arbre qui ne grandit pas du jour au lendemain, mais qui prend du temps. Donc des fois, je peux le comprendre, on est découragé. Tu dis, oui, mais je lis, mais je ne vois pas de changement dans ma vie. J'essaye de m'appliquer à la lecture, mais c'est compliqué. Je prie, je ne vois rien changer. Continuons à nous nourrir. C'est pas parce que on dit aux enfants, prends de la bonne nourriture, mange équilibré, mange des légumes et tu grandiras. Et peut-être il a déjà fait cette remarque, oui, mais je ne me vois pas grandir. Pourtant, il grandit. Il y a une espèce de bambou chinois qui existe. Et il a une particularité, ce bambou, c'est que quand vous le mettez en terre, il ne se passe strictement rien. Au bout d'un an, vous ne voyez rien. Au bout de 2 ans, toujours rien. 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'y a rien en apparence. Mais ce n'est qu'au bout de la 5e année que quelque chose sort de terre. Et en l'espace d'un mois, il va atteindre une hauteur de 30 mètres. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 5 ans? Est-ce qu'il y avait un problème dans la plante? Pas du tout. Mais pendant 5 ans, il développe ses racines en profondeur. Il n'y a rien en apparence. Peut-être que le bambou, il se décourage, il dit « je vois rien se passer en extérieur ». Mais pendant 5 ans, il développe ses racines en profondeur parce qu'il sait que durant la 6e année, il va pousser de 30 mètres en un mois. Notre vie spirituelle devrait refléter ce système-là. Ou même si on ne voit rien en apparence, je continue à m'enraciner, à grandir en profondeur avec Dieu. Parce que Dieu est capable de me faire grandir après. Quelles sont les ressources que nous utilisons? Paul va utiliser différents matériaux. Dans 1 Corinthiens 3, il va dire, d'un côté, il va y avoir de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Et de l'autre côté, il va mettre en opposition avec du bois, du foin, du chaume. Et vous dire, mais avec quels matériaux, avec quelles ressources vous construisez votre vie? L'un, eh bien, sont des matériaux que l'on trouve, des ressources que l'on trouve en profondeur. L'or, l'argent et les pierres précieuses. Les autres sont des ressources que nous trouvons en surface. Les uns sont des matériaux qui sont rares et en petite quantité, mais les autres sont des matériaux qu'on trouve en abondance. Les uns sont des matériaux qui sont purifiés par le feu, qui résistent à l'épreuve. Et de l'autre côté, on a des matériaux, des ressources qui sont détruites par le feu. Quelles sont les ressources que nous utilisons? Est-ce que nous utilisons les ressources de la prière, les ressources de la parole de Dieu, les ressources de la présence de Dieu? Ou alors les ressources avec lesquelles nous construisons nos vies sont des choses qui peuvent être détruites par le feu, qu'on trouve en abondance dans notre vie de tous les jours, des distractions, des choses comme ça? Jésus a grandi dans la parole, il a utilisé la parole. Alors nous ne nous contentons pas de faire un survol de la parole, mais d'y plonger dedans et d'y trouver notre trésor. Je reviens à mon verset de base, Jérémie 17, 8. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien. Va en profondeur pour faire face aux épreuves. Il y a différents types d'épreuves que nous pouvons rencontrer dans nos vies. Il y a les attaques spirituelles, où l'ennemi va essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. On est dans la volonté de Dieu, mais l'ennemi nous empêche d'avancer. L'ennemi nous empêche de continuer. Il essaye de nous freiner, de nous faire marche arrière. Jésus, lorsqu'il va traverser le lac de Galilée, la Bible nous dit qu'il va rencontrer une tempête surnaturelle, une méga tempête littéralement, une tempête surnaturelle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va résister, il va calmer la tempête. Il y a une deuxième tempête que nous retrouvons dans nos vies, ce sont les mauvais choix que nous faisons où nous subissons les conséquences de nos désobéissances. Et l'exemple de la tempête que Jonas va rencontrer. Il va désobéir à l'ordre de Dieu et à cause de cette désobéissance, il va se retrouver dans une tempête. Là, il n'est pas question de faire face à l'ennemi, mais de se repentir, comme Jonas l'a fait, et qui a pu, par la suite, continuer de marcher avec Dieu. Mais il y a une troisième tempête, celle que je vais continuer de développer, c'est les circonstances de la vie. À un moment donné, Paul va se retrouver dans une tempête qu'il n'a pas provoquée à cause de sa désobéissance. Ce n'est pas, la Bible ne nous montre pas que c'est l'ennemi qui vient s'opposer à lui, mais c'est les circonstances de la vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir confiance en Dieu. Il va être en paix au sein même de la tempête. Notre attitude au sein de l'épreuve, au sein des tempêtes que nous pouvons rencontrer, au sein même des circonstances que nous avons parfois dans nos vies, vont faire toute une différence. Le Saint-Esprit veut plus agir sur nos attitudes que sur nos actions. Dans l'Ancien Testament, on voit notamment les 10 commandements où il est question de faire. Mais à ce moment-là de la Bible, le peuple d'Israël n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Donc il devait faire. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur des croyants. Et il est moins question de faire, mais plus de réagir dans nos attitudes. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Le feuillage de l'arbre ne dépend pas des circonstances extérieures. La façon dont nous réagissons aux circonstances est plus importante que les situations elles-mêmes. Exemple. Tu perds ton travail. C'est quelque chose que tu n'as pas forcément provoqué. Ce n'est pas forcément l'ennemi qui vient s'opposer à toi, mais c'est une circonstance de la vie. Tu perds ton travail. La Bible nous dit, dans Matthieu 5, 45, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il y a des bonnes circonstances qui arrivent à tout le monde, et il y a des mauvaises circonstances qui arrivent aussi à tout le monde. Imagine, tu perds ton travail. Quelle est la réaction que tu fais? Tu ne peux pas forcément agir sur les circonstances, mais tu peux agir sur ta réaction. Est-ce que tu vas réagir, tu vois, je perds mon travail, je suis un moins que rien, j'arrive jamais à faire ce que je veux, et là tu tombes dans la dépression, tu tombes dans la plainte, etc. etc. Première réaction possible. Ou alors, tu perds ton travail, mais tu réagis différemment. Au lieu d'être dans les plaintes, être dans l'apitoiement sur soi, tu es plein de confiance. Tu dis, non, je sais que mon Dieu est vivant. Je sais que mon Dieu est fidèle. Je sais que mon Dieu pourvoira à chacun de mes besoins. Et au lieu de tomber dans la dépression, dans l'apitoiement sur soi, tu es rempli de confiance. Tu t'appuies sur les promesses de Dieu. Une circonstance identique pour mes deux réactions complètement différentes. Un jour, j'étais au téléphone avec quelqu'un et qui me partageait justement son désarroi sur le fait d'avoir perdu son travail et d'avoir toutes sortes de circonstances mauvaises dans sa vie, comme quoi ses prières n'étaient pas exaucées et il se lamentait. Oui, la prière est un moyen de se lamenter. C'est vrai. Où on peut déverser son âme. C'est biblique. Mais la prière ne doit pas être vue comme un moyen où on voit un Dieu comme un distributeur de bénédictions. La prière doit être vue comme un moyen où on ne cherche pas la bénédiction de Dieu, mais le Dieu de la bénédiction. On va dans sa présence pour être rempli du Saint-Esprit, pour être rempli de paix. La Bible nous dit, dans Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, dans n'importe quelle circonstance, bonne ou mauvaise, faites connaître votre besoin à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque tu vas dans la prière, non pas pour demander des choses à Dieu, mais pour être rempli du Saint-Esprit, il est capable de te donner une paix qui dépasse toute compréhension, les autres pourraient te regarder, mais comment ça se fait qu'il traverse telle épreuve, telle tempête dans sa vie, et pourtant il est bien, il est dans le calme, il est en paix. Mais parce que lorsque tu es en profondeur, enraciné, tu as puisé les ressources de Dieu, tu es capable de faire face eh bien, à n'importe quelle circonstance. Peu importe la sécheresse que tu es en train de passer, par laquelle tu passes, ton feuillage reste vert. Ton feuillage reste vert. La foi ne nous dispense pas des mauvaises choses. Pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que ça y est, on va eh bien, flotter sur un petit nuage jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou qu'il nous emporte avec lui. Non, pas du tout. La foi ne nous dispense pas des mauvaises choses, mais la foi nous équipe pour le voyage. Et ça n'a rien à voir. La foi nous équipe. Durant l'hiver, il se passe un processus dans les arbres qui est extraordinaire. Durant l'hiver, l'arbre va se protéger du froid par toutes sortes de mécanismes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais durant l'hiver, un arbre va mettre un processus de réparation pour se protéger des cycles de gel, des gels qu'il pourrait y avoir, mais il va réparer également ses cellules. Mais durant l'hiver, l'arbre va se préparer à la nouvelle saison. Et les scientifiques ont montré que c'est pendant l'hiver que l'hiver va jouer un rôle crucial eh bien, dans le renforcement et dans la résistance des arbres. Et sans hiver, un arbre ne grandirait pas. Sans hiver, un arbre ne produirait pas de fruits. Est-ce que Dieu ne permettrait pas certaines épreuves dans nos vies, certaines tempêtes, des mauvaises circonstances, pour que comme les arbres, nous puissions continuer de grandir, nous puissions continuer de nous enraciner en profondeur. Parce que durant l'hiver, les arbres continuent de grandir dans le sol. En extérieur, on ne voit rien, mais les racines continuent de pousser. Est-ce que Dieu ne permettrait pas certaines mauvaises circonstances, certaines sécheresses, pour que nous puissions continuer de grandir en profondeur avec Dieu? Même si Dieu ne calme pas le chaos qui est dans ta vie, autour de toi, il peut apaiser le chaos qui est atteint à l'intérieur de toi. Mon troisième point, Jérémie 17,8 toujours. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau. Il ne cesse pas de porter du fruit. Il ne cesse pas de porter du fruit. On connaît Galates chapitre 5, verset 22, où il est question des 9 facettes du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est une manifestation du caractère de Christ dans la vie d'un chrétien. C'est le résultat d'une vie connectée à Christ, d'une vie enracinée avec Christ. Mais le fruit ne se développe pas par l'effort. On ne peut rien faire pour produire le fruit de l'esprit à l'intérieur de nous, à l'intérieur d'un chrétien. Pas du tout. Les arbres n'ont pas de mal à porter du fruit. On ne peut pas aller voir un arbre et lui dire « Allez, porte plus de fruits. » Il ne peut rien faire pour porter plus de fruits. D'accord. Les branches restent simplement eh bien, connectées eh bien, à l'arbre et ils portent du fruit. C'est notre attachement à Dieu qui nous permet de porter du fruit. Nous ne pouvons pas le développer en nous. Mais nous devons simplement rechercher à être reliés à Dieu. Et le fruit viendra naturellement. Ça s'appelle le fruit du Saint-Esprit, pas le fruit de nos efforts. Un jour, Jésus va dire ceci à ses disciples, dans Matthieu 4,19, je ne sais pas si je l'ai donné à la régie. Il leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » La mission des disciples était d'être au contact de Jésus. La mission de Jésus était de faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Les disciples devaient être au contact de Jésus et Jésus, par leur contact avec lui, les a fait devenir des pêcheurs d'hommes. C'est exactement le même principe. Nous sommes au contact de Dieu et lui fera de nous des personnes aimantes, des personnes joyeuses, des personnes maîtres d'elles-mêmes, des personnes patientes, parce que nous sommes reliés à lui. Alors lui fait, Mais nous ne devons pas rechercher l'amour, nous ne devons pas rechercher à être plus patiente, rechercher à être plus maître de nous-mêmes. Mais c'est quelque chose qui vient naturellement parce que nous sommes reliés à lui, nous sommes en relation avec Dieu. C'est ce qu'il dira dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est Dieu qui fait, ce n'est pas nous. Tout ce que nous faisons, c'est le fruit de la chair. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais lorsque c'est Dieu qui fait, alors ça fait toute une différence. Le sarment porte du fruit, il ne produit rien. Notre mission consiste à cultiver l'intimité, à être en profondeur. Et sa mission consiste à produire le caractère. Exemple. Les enfants, les petits-enfants, là, les bambins, les bébés, sont le résultat de l'intimité des parents. D'accord ? Ils ne viennent pas suite à l'imposition des mains. Quelqu'un t'impose les mains et pouf, tu tombes enceinte. Non. Les enfants sont les résultats de l'intimité. Le fruit du Saint-Esprit est le résultat de l'intimité que tu as avec Dieu. Le fruit du Saint-Esprit ne vient pas suite à une prière qu'on a faite sur toi. Le fruit du Saint-Esprit vient de ton intimité avec Dieu. Les fruits ne sont pas faits pour celui qui les porte. Les fruits sont faits pour ceux qui sont autour de l'arbre. Les personnes les plus proches de nous vont être au bénéfice du fruit que nous portons. Nos amis, nos familles, nos collègues de travail, l'Église. Merci Seigneur pour les dons que Dieu fait. Parce qu'au travers des dons spirituels, on peut trouver la guérison, on peut trouver la délivrance, on peut trouver le salut. Merci Seigneur pour tout cela. Mais si nous offrons au monde uniquement des cadeaux, des dons, ils ne vont pas être nourris. Vous ne pouvez pas donner à vos enfants uniquement des cadeaux. Merci pour Noël, ils reçoivent des cadeaux à leur anniversaire, etc. Mais ils ne sont pas nourris par ces cadeaux. Ils sont nourris par la nourriture que donnent les parents. Notre cadeau va toucher le monde. Ce que Dieu dépose en chacun de nous, que nous pouvons déverser dans les autres. Merci. Mais ils ne sont pas nourris par cela. À la maison, au travail, l'onction qui est sur nous n'est pas plus importante, eh bien, que notre attitude vis-à-vis de nos collègues de travail, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de notre conjoint. Si nous avons un conjoint qui ne croit pas en Dieu, si nous avons des enfants qui ne croient pas en Dieu, si nous avons des collègues de travail qui ne croient pas en Dieu, il ne se soucie pas de la grandeur de notre Église, il ne se soucie pas du charisme que nous pouvons avoir, mais il se soucie de la nourriture qu'on peut leur apporter, de l'attitude que nous pouvons avoir vis-à-vis d'eux. Est-ce que nous sommes des personnes aimantes ? Est-ce que nous sommes des personnes joyeuses ? Est-ce que nous sommes des personnes remplies de foi ? Est-ce que nous sommes des personnes maîtres de nous-mêmes ? Est-ce que nous sommes des personnes fidèles ? Est-ce que nous sommes des personnes, eh bien, en paix ? Malheureusement, c'est une triste réalité. Mais il y a des pasteurs qui ont un grand ministère. Des fois, on peut voir leur renommée sur Internet, etc., etc. Ah oui, ils ont peut-être de nombreux abonnés, des milliers d'abonnés sur YouTube, mais leurs enfants, parfois, ne veulent pas leur parler parce qu'ils n'ont pas de nourriture à apporter à leur famille. Nous devons porter du fruit et nourrir ceux qui sont autour de nous avec ce fruit-là. Les fruits prennent du temps à mûrir. Et c'est comme si Dieu nous donnait ce fruit sous forme de graines. et les graines qui mettent du temps à pousser. Et Dieu va nous donner des opportunités pour que ce fruit pousse, pour que ce fruit grandisse, pour que ce fruit arrive à maturité. Plus nous nous soumettons au Saint-Esprit dans des moments de peur, alors plus le fruit de la foi va se développer. Plus nous nous soumettons au Saint-Esprit dans des moments de stress, plus le Saint-Esprit va cultiver le fruit de la patience. Plus nous nous soumettons au Saint-Esprit dans des moments où nous sommes offensés, plus il va permettre que le fruit de l'amour se produise. Parce que nous nous soumettons à Dieu, parce que nous allons en profondeur puiser des ressources, alors nous allons pouvoir porter du fruit pour les autres. Mais des fois, ça prend du temps. Ça peut être rapide. Les radis mettent 21 jours à porter du fruit. Mais ça peut être plus long. Les avocats mettent entre 10 et 15 ans à enfin voir le fruit être mûr. Ne nous décourageons pas de la durée que ça prend, mais restons en profondeur avec Dieu. Puiser ses ressources. Je relis mes versets. Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien. Il ne cesse pas de porter du fruit. Va en profondeur pour puiser des ressources. Va en profondeur pour faire face aux épreuves. Va en profondeur pour porter du fruit. C'est tout le programme de la vie chrétienne. Ni plus ni moins. Des racines profondes pour une croissance solide. Je termine avec ce verset, Ésaïe 37, verset 31. Les rescapés de la communauté de Juda sont ceux... les rescapés de la communauté de Juda, ceux qui seront restés, plongeront de nouvelles racines vers le bas et porteront du fruit vers le haut. L'enracinement est important et vital parce qu'un arbre a besoin de racines profondes pour se nourrir, pour se stabiliser, pour grandir, pour porter du fruit. Nous avons également besoin d'être profondément enraciné en Dieu pour la même chose. Être stable, grandir, porter du fruit, faire face aux épreuves. La croissance vers le haut dépend de notre enracinement. La croissance vers le haut dépend de la profondeur vers le bas. Et des fois, on dit à Dieu, « Mais Seigneur, je veux grandir. Je veux grandir avec toi. Je veux que ma croissance spirituelle prenne une ampleur. » D'accord ? Mais va en profondeur. Va en profondeur. Ce passage nous dit, plongeront de nouvelles racines vers le haut et porteront du fruit vers le haut. Ta croissance spirituelle dépend de ta profondeur avec Dieu. Amen. Seigneur, je te prie.